Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Emmanuel Macron annonce un projet de loi asile et immigration pour début 2023. Il veut notamment s'appuyer sur les territoires ruraux pour l'accueil des étrangers. Une grève des aiguilleurs du ciel dans les aéroports français, un millier de vols annulés ce vendredi. En Tunisie, un accord sur des augmentations de salaire dans le secteur public a été signé par le gouvernement et l'UGTT. Gros plan sur l'Institut français de civilisation musulmane à Lyon, un espace consacré à la culture et aux arts islamiques. Nous écouterons son président, le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kaptan. Enfin, nous écouterons le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki. Il présente une lecture de sa dernière pièce, Hakima, je me souviens, ce dimanche, dans la ville de Bourbonne-les-Bains. Emmanuel Macron annonce un projet de loi sur l'asile et l'immigration début 2023 devant les préfets réunis à l'Élysée. Emmanuel Macron a souhaité hier une meilleure répartition des étrangers sur le territoire français, notamment dans les espaces ruraux qui sont en train de perdre de la population. Selon le Figaro, le chef de l'État a qualifié la politique actuelle d'absurde, inefficace et cruelle, car selon lui, elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent et qui sont dans la plus grande misère dans les quartiers les plus défavorisés. Emmanuel Macron promet aussi d'améliorer l'efficacité des politiques de reconduite à la frontière pour les étrangers en situation irrégulière. Toujours en France, une nouvelle grève aujourd'hui dans le secteur aérien. Un millier de vols sont annulés ce vendredi. Les aiguilleurs du ciel revendiquent une augmentation des salaires et des effectifs. Le syndicat majoritaire s'inquiète du niveau actuel de l'inflation ainsi que des recrutements à venir. Conséquence de cette grève, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50%. Ce vendredi est donc marqué par des annulations de vols et des retards dans toute la France. Gros plan sur l'Institut français de civilisation musulmane à Lyon, un espace dédié à la culture et aux arts islamiques. Son président, le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, nous fait part des événements à venir au sein de cet institut.
En avril, nous sommes en train de préparer un colloque sur l'islam de France, sa gouvernance et sa gestion. Nous avons un certain nombre d'universitaires que nous avons contactés qui sont tout à fait d'accord pour venir nous accompagner, pour venir faire en sorte que ce colloque soit véritablement quelque chose qui puisse apporter les éléments nécessaires pour une meilleure compréhension et faire en sorte que les musulmans ne soient plus considérés différemment qu'on le voit aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de que l'islam aussi ne soit pas toujours en train de tendre la main, mais qu'il apporte la compréhension, l'intelligence, etc. Et c'est cette intelligence que nous voulons délivrer. Nous avons aussi, pendant le Ramadan, les rencontres du Ramadan. Ça fait depuis 20 ans que nous faisons ces rencontres-là, où nous associons tous les dimanches après-midi du mois de Ramadan. Nous faisons des conférences dans lesquelles nous associons un juif, un catholique, un protestant, un sunnite et un chiite. Nous les faisons dialoguer sur un certain nombre de points et je pense que ces conférences sont suivies, vous ne pouvez pas vous imaginer, aussi bien par les musulmans que par les juifs et par les chrétiens. C'est ça aussi notre rôle, c'est aussi comment rassembler, comment faire en sorte que nous puissions nous comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la compréhension qui manque.
Vous participez ce week-end, aux Journées européennes du patrimoine.
Oui, tout à fait. Nous ouvrons depuis quelques années déjà. Nous ouvrons la mosquée de Lyon depuis 2003. Nous ouvrons la mosquée de Lyon et aujourd'hui aussi l'IFCM. Les gens vont venir découvrir l'exposition qu'il y a, découvrir notre médiathèque, notre bibliothèque. Effectivement, nous avons plus de 10 000 livres aujourd'hui que nous présentons au public. Nous avons effectivement des conférences qui sont faites à l'Institut, dans sa salle de conférence. Donc, il y a véritablement une activité que nous voulons permanente, aussi bien à la journée du patrimoine, mais en dehors, puisque l'IFCM est ouvert tous les jours et reçoit tous les jours un certain nombre de jeunes. Notamment aujourd'hui, je voyais ces jeunes qui venaient pour connaître l'islam et la culture humaine, ces jeunes d'école qui viennent. Je ne peux pas vous imaginer comme ça me fait plaisir de voir que nous sommes capables aujourd'hui de recevoir et de parler de ce qu'on est avec des jeunes notamment qui veulent s'informer de ce qu'est cette religion.
Avec l'aspect culturel qui est mis en lumière et qui sera notamment mis en lumière le 13 octobre prochain avec la projection du film La Nuit Noire d'Alain Tasma.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que on s'est inscrit dans tous les événements heureux, malheureux que nous avons connus dans notre pays. Il y a cette journée-là, je vous dis, il y a la journée mondiale de la langue arabe, il y a la journée nationale sur la laïcité, pour parler de la laïcité de la loi de 1905. Nous avons, comme je vous le disais, nous avons une conférence le 24 novembre d'Inès Safi sur l'atomisme grec, arabe et moderne. Donc, vous voyez, on a un ciné-concert qui aura lieu le 17 novembre avec la Shaba du Bled au Bidonville avec Wahid Chahib, qui viendra effectivement nous présenter, nous rappeler la présence des musulmans à Lyon depuis cette époque-là et comment les choses ont évolué. Ça, c'est la réalité des choses. On a le film sur la mosquée de Paris, là, Les Hommes Libres, d'Ismaël Ferouri, où on voit que les musulmans aussi à la mosquée de Paris ont participé à sauver des juifs. Donc il y a tous ces éléments aussi qui montrent aujourd'hui que nous sommes dans la bonne voie, celle du dialogue et celle de faire en sorte de montrer que les musulmans ne sont pas simplement une pièce rapportée, mais au contraire, ils font partie du paysage depuis le début du siècle, 1900.
Vous évoquiez la journée nationale de la laïcité hein, qui aura lieu le 9 décembre prochain, c'est bien cela?
Tout à fait, oui. Donc il y aura lieu le 9 décembre prochain, où on a invité Jean-Louis Bianco, des gens de l'Institut supérieur d'études en relation de la laïcité, Philippe Martin, Georges Fenech, qui était le rapporteur de la commission sur les sectes, etc. Donc aujourd'hui, nous voulons effectivement être partenaire dans tout ce qui peut permettre une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de l'islam et de sa culture.
Avec cette exposition, laïcité et religion dans la France d'aujourd'hui, qui démarre donc le 9 décembre jusqu'au 6 janvier 2023.
Tout à fait, oui.
Le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, au micro de François-Xavier de Calonne, et puis l'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris débute ce vendredi à l'Institut du Monde Arabe, une université d'été qui se poursuivra samedi et dimanche dans l'enceinte de la Grande Mosquée. Le gouvernement tunisien et l'UGTT ont signé un accord sur une augmentation salariale dans le secteur public. Cette revendication était au cœur de la grève qui a paralysé le pays en juin dernier. Les deux parties sont tombées d'accord sur une augmentation de 5% du salaire brut dans le secteur public. Avant le mondial au Qatar, Amnesty International demande à la FIFA d'indemniser les ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde. 6500 ouvriers seraient morts en travaillant sur les différents chantiers, selon la presse. Cette semaine, l'émir du Qatar a accordé une interview à l'hebdomadaire Le Point, où il a déclaré qu'il avait modifié la loi pour punir quiconque maltraite un employé. C'était il y a 40 ans au Liban, les massacres de Sabra et Shatila, des massacres qui ont commencé le 16 septembre 1982 dans ces camps palestiniens et qui se sont poursuivis pendant 3 jours. Nous y reviendrons dans nos éditions de samedi et dimanche. Antonio Guterres espère que les discussions entre les autorités saoudiennes et iraniennes vont contribuer à apaiser les tensions dans la région du Golfe. Le secrétaire général de l'ONU souhaite aussi que les pays du CCG contribueront à résoudre la crise énergétique dans le monde. 2 policiers poignardés tôt ce matin dans le centre de Londres. Un homme avec un couteau a été arrêté. Selon la police britannique, l'attaque n'est pas traitée comme liée au terrorisme. Le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki fera une lecture performance de sa nouvelle pièce Hakima, je me souviens, ce dimanche à 16h à l'office du tourisme de Bourbonne-les-Bains. On écoute Mohamed Kaki.
Cette pièce, tout d'abord, elle rend hommage aux travailleurs algériens qui sont morts pour l'Algérie, qui sont morts lors du 17 octobre 1961. Donc ça raconte aussi l'histoire du 17 octobre 1961. Elle raconte aussi l'histoire du combat pour l'indépendance de l'Algérie. Et elle raconte aussi, après l'indépendance, comment les Algériens, les travailleurs algériens et leurs enfants ont vécu après 62 ici en France. Et ça n'a pas été une histoire facile non plus. C'est, je l'ai voulu aussi drôle, parce qu'il faut rire dans le théâtre. Hein. Le drame, c'est fait pour en rire, et c'est très important. Donc c'est, voilà, elle interpelle ici, là-bas, et elle mélange la poésie, mais aussi l'histoire singulière des gens avec la grande histoire.
Vous allez faire une lecture de votre pièce dans la ville de Bourbonne-les-Bains. Il s'agit donc d'une mise en bouche. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir connaissance du texte de la pièce.
Oui, alors là, c'est une très belle histoire, je vous remercie. C'est une histoire de rencontre. Donc je suis ici dans la Haute-Marne, et donc dans un lieu inconnu pour moi, et puis le public qu'il y a là-bas, il est aussi, lui-même ne connaît pas cette histoire, il est même très loin de cette histoire, et je dirais que quand je lisais ce texte dans la rue, en marchant dans cette ville, Bourbonne-les-Bains, eh bien, beaucoup de gens sont venus vers moi, et petit à petit, ça s'est construit, et donc on m'a proposé de me programmer l'année prochaine. Et avant cette programmation, eh bien, on a décidé de faire une mise en bouche, une lecture performance pour les gens, pour les touristes, etc. Et je suis très heureux de l'offrir, cette mise en bouche, puisque ça y est, ça commence à prendre forme. C'est quand même un long texte important, et qui convoque le rire, parce que beaucoup de gens qui me voient passer dans la rue rient aussi avec moi. Ils viennent me voir, ils écoutent, et ça les intéresse. Et donc voilà, nous allons ce dimanche 18 septembre, eh bien offrir un apéritif de ce texte, je dirais, une mise en bouche pour la première fois, effectivement, avant les représentations du mois d'octobre qui auront lieu à Paris, à Lyon et dans les Ardennes.
Et vous le dites, il est important de raconter la petite histoire pour parler de la grande histoire avec un grand H.
Oui, absolument. C'est tout à fait ça qui touche les gens. Parce que les gens, quand ils m'écoutent lire le texte, ça raconte des petites histoires en même temps, singulières. Par exemple, lorsque je parle de ce monsieur S, l'instituteur alcoolérique, qui va avoir une attitude assez bizarre avec des enfants d'Algériens, une dame, pas plus tard qu'aujourd'hui, m'a dit « Écoutez, mais moi ça me parle, parce que à l'époque, on frappait les enfants à l'école, et c'était pas seulement pour les enfants d'Algériens, mais c'était aussi d'une manière générale, à l'école française, eh bien c'était normal de frapper les enfants physiquement, donc c'est-à-dire dans les années 60, etc. » Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça la petite histoire, c'est quand elle touche les gens dans leur quotidien, et puis effectivement on l'intègre dans une grande histoire, et donc c'est dans ce sens que c'est une contribution à l'histoire de la guerre d'Algérie, et surtout une histoire à la contribution à l'histoire de France, et donc c'est pour ça que je suis assez heureux qu'elle ait un écho chez les gens. Et quels que soient les gens, c'est-à-dire pas forcément les Français héritiers de l'immigration algérienne, mais aussi monsieur et madame tout le monde, et je ne savais pas, et c'est ça la grande surprise pour moi de ce texte, c'est de voir que l'écriture, eh bien, elle est universelle, elle est belle, et elle a une âme qui transcende toutes les classes sociales, quel que soit l'endroit où on est né. Eh bien, ça la touche, et cette dame, elle me disait, eh bien, moi, mon mari a subi ça, et son mari s'appelle Georges.
Le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, il fera une lecture performance de sa nouvelle pièce Hakima, je me souviens, dimanche 18 septembre à 16h, à l'office du tourisme de Bourbonne-les-Bains. Toujours en France, 15 000 postes d'ambulanciers sont à pourvoir sur tout le territoire. C'est ce qu'affirment les fédérations du secteur. Elles demandent au gouvernement d'agir sur la formation et les salaires pour sortir de l'impasse. Enfin, c'est le 13 octobre qu'Omar Radad saura si la justice accepte de réviser son procès. 28 ans après sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marchal, un meurtre dont il se dit innocent, hier lors d'une audience à huis clos, son avocate a présenté des éléments nouveaux à la commission d'instruction de la cour de révision. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Samia Badat-Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.